Les rendez-vous de l'information, Jean-Louis Péguillan.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous recevons ce soir, et ce n'est pas la première fois, je crois que vous la connaissez, Josette Elahi, originaire de Bordeaux-sur-l'Hers, où elle revient régulièrement, d'ailleurs, en vacances. C'est une historienne française de l'Antiquité, chercheur honoraire au CNRS. Alors, d'après ce qu'on me dit sur les notes que j'ai, vous avez quitté l'Ariège natal après des études dans le collège de Saint-Girons. Et vous êtes parti après directement en Extrême-Orient ou sur Paris?
Oui. Alors, bonjour Jean-Louis Péguillan. Merci pour votre invitation. Je suis toujours très bien reçue à Radio Causeran. Alors, j'ai remarqué le petit paillasson à l'entrée du studio où il y a marqué « Welcome home ». Bienvenue chez vous. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se sent chez soi à Radio Causeran.
Mais vous êtes chez vous, vous êtes couseranaise, vous
voilà.
Êtes chez vous.
Voilà, absolument. C'est ce que je ressens chaque fois que je reviens.
Alors, vous avez fait des études très poussées et vous êtes spécialiste aujourd'hui, on peut dire, historienne et romancière. On va commencer peut-être par rappeler, en tant qu'historienne, tout ce que vous avez produit ou une grande partie.
Voilà. J'ai commencé tout de même par être professeur de lettres classiques. J'ai enseigné pendant 12 ans. Donc, d'où mon goût pour la littérature. Je voulais toujours écrire des romans, mais je n'ai jamais eu le temps, parce que je suis entrée au CNRS comme historienne, donc j'avais pas le temps. J'étais obligée de lire des livres d'histoire sur le Proche-Orient. J'étais spécialiste du Proche-Orient ancien, les Phéniciens, les Assyriens. L'an dernier encore, j'ai publié un livre aux éditions Perrin, Histoire de l'Empire Assyrien. Donc, c'est simplement il y a une dizaine d'années, quand j'ai pris ma retraite, que je suis revenue à la littérature. J'ai commencé à écrire, là c'est « Mort à Barcelone », c'est le 7e roman.
Voilà, c'est le dernier que vous venez de publier, on va y revenir. C'est le 7e roman. Est-ce qu'ils sont tous un petit peu dans la même lignée ou est-ce que vous... Comment arrive cette inspiration? Parce que là c'est un peu particulier. Comment on décide à un moment donné d'écrire un livre? On se dit voilà, comme ça, ça prend tout d'un coup, ou alors on y travaille longtemps?
C'est un peu particulier, comme je suis historienne, il y a l'histoire qui refait surface toujours. Et vous savez que la lecture maintenant diminue un petit peu, donc les gens hésitent à lire des livres d'histoire très spécialisés. Donc dans le roman, je mets un fond historique, les événements présents, les événements du passé, ça se lit plus facilement. Et puis les romans, c'est très différent quand même que des livres spécialisés, parce que pour les livres spécialisés, il faut aller dans les bibliothèques, il faut travailler longtemps, lire beaucoup de livres d'histoire. Tandis que pour le roman, pour moi, ça vient dans ma tête. L'histoire naît dans ma tête, les personnages vivent en moi, je vis l'histoire avant de l'écrire.
On met combien de temps pour écrire un livre? Il n'y a pas de temps précis? Ça peut prendre plusieurs mois? Ça peut prendre une année? Non?
Alors ça dépend des livres. Quand c'est très spécialisé, ça prend un peu plus de temps. Mais enfin, moi, j'écris très vite. J'écris beaucoup. J'écris une quarantaine de livres. Bon, disons, quelques mois pour un livre très spécialisé, mais en roman, ça peut être 15 jours, 3 semaines.
Ah oui,
ça
d'accord.
Peut être très rapide. Si ça je travaille à temps complet, bien sûr.
Donc vous avez déjà l'histoire, un peu le roman dans la tête, est-ce que vous venez
tout.
Nous
voilà, j'ai tout dans la tête, et l'arrière-plan historique, les événements présents, parce que mes romans se passent toujours dans le présent. Mais l'aspect politique, historique, présent, les événements que je suis, qui m'intéressent beaucoup... Je les ai, ils sont là. Hein. Donc, je n'ai pas de problème pour insérer mon histoire fictive dans l'histoire politique de mon temps, en mélangeant les personnages fictifs et les personnages réels. Hein. Il y a dans Mort à Barcelone, et il y a par exemple Emmanuel Valls, Macron, etc., le président Macron, etc.
Et ça demande une recherche particulière, une documentation particulière, ou là aussi vous l'avez dans la tête en fonction de ce que vous vivez?
Oui, de temps en temps, s'il me manque un élément historique, je le cherche, c'est très facile. Sur Internet, on trouve tout.
Alors, votre dernier roman, il s'appelle « Mort à Barcelone » et il commence à Phuket en 2004, au moment du tsunami, c'est ça?
C'est ça, oui.
Puisque c'est un homme qui perd son épouse, sa femme ou sa femme, je crois,
oui.
Qui se trouve pris dans cette tourmente terrible, finalement. Alors, première chose que je vous ai demandé, est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez là ou pas? Vous m'avez dit non, je l'ai vécu comme tout le monde et comme beaucoup, avec des images terribles. Et à partir de là, donc, vous avez été motivé pour écrire.
Voilà. Mais il faut dire que je connais bien l'Asie du Sud-Est, je connais la Thaïlande, nous y sommes allés plusieurs fois. Donc, je connais bien le pays, le paysage, les plages, etc. Et puis, l'événement, on a eu des images tellement... épouvantable, tellement forte que pour moi ça a déclenché quelque chose. Et j'ai eu envie de commencer le premier chapitre de mon roman là. Donc c'est le jeune catalan Jordi qui est professeur d'histoire-géographie, qui est bon, il a rien de particulier, il est sympathique. Qui se marie avec une Libanaise qui faisait ses études à l'université de Barcelone. Et ils ont une petite fille qui s'appelle Nour. En arabe, ça signifie la lumière. Donc voilà, ils se sont rencontrés là. Et comme ils étaient assez pauvres en tant qu'étudiants, quand Nour a eu 5 ans, ils l'ont confié aux grands-parents. Et ils ont décidé de faire un voyage de rêve en Thaïlande. Malheureusement, c'était le 24 décembre, le jour du tsunami.
Alors, allez un peu plus loin, donnez-nous envie de lire ce livre, sans rien dévoiler quand même,
bien entendu. Non, ce que je veux dire, c'est, bon, là, évidemment, dans le premier chapitre, il perd sa femme dans le tsunami, c'est épouvantable, mais il est confronté à toutes sortes d'événements terribles, parce que notre monde actuel est difficile, hein, tout le monde le sait. Et il y a tous les événements qui se produisent. Il a sa fille qui est enlevée au Liban avec les problèmes de l'attentat contre le premier ministre Hariri. Il y a l'explosion du port de Beyrouth qui fait des centaines de morts. Il y a le Covid. Il y a toutes sortes d'événements extérieurs qui interviennent dans sa vie. Et puis, il y a les problèmes personnels. Alors, il en a beaucoup. Il a un père épouvantable, par exemple, qui est banquier, ancien franquiste, qui est très dur avec lui. Bon, il a beaucoup de problèmes. Donc, ce jeune catalan, il va lui arriver toutes sortes de péripéties, mais je ne peux pas vous raconter.
Voilà, il faut acheter le livre et le lire.
Voilà, non, mais si vous voulez, c'est ses réactions devant les événements extérieurs et puis les problèmes personnels. À un moment donné, il est vraiment au plus bas. Comment il va arriver à gérer tout cela? Et par l'amitié en particulier, et comment il va réussir à s'en sortir et trouver tout de même à être heureux, malgré tout, malgré le monde actuel et malgré les problèmes personnels.
Alors, on nous l'avait dit tout à l'heure, en vous lisant, on revit l'actualité, on se replonge dans l'actualité, puisque vous suivez des événements précis.
Voilà.
Et qui marquent, qui sont des dates tout au long de votre ouvrage.
Voilà. Alors, évidemment, lui est catalan, donc il habite Barcelone, donc ce qui est au premier plan là, du livre. En dehors des événements extérieurs, c'est le problème de l'indépendantisme catalan. Les Catalans, moitié-moitié à peu près, les uns veulent l'indépendance et les autres veulent rester...
Vous croyez moitié-moitié à peu près?
Oui. Ça dépend des périodes. Et actuellement, c'est à peu près moitié-moitié, mais les indépendantistes ne sont pas unis. Ils sont divisés entre deux mouvements. L'un qui veut vraiment l'indépendance à tout prix, sans rien demander à l'Espagne, et les autres qui veulent passer tout de même par Pedro Sánchez, le premier ministre
plus légaliste.
Espagnol. Plus légaliste, voilà.
Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, les indépendantistes forts sont plus dans la périphérie de Barcelone, plus dans la campagne qu'au centre de Barcelone.
Oui, c'est-à-dire que le président du Parlement catalan, qui est Carles Puigdemont,
puisqu'il est en exil.
Voilà, et il est en exil et puis il a démissionné aussi l'an dernier. Il est originaire d'un petit village de la Catalogne, donc c'est un petit peu. Il était maire de Gérone également. Donc, ce qui est intéressant dans ces mouvements, alors lui voulait absolument l'indépendance. Donc, il a fait un référendum en 2017 qui était à 90% pour l'indépendance. Et il l'a fait voter au Parlement le 27 octobre 2017.
Au Parlement catalan.
Au Parlement catalan, ça a été entériné, mais évidemment, Madrid a réagi. Ils ont envoyé la police pour arrêter une partie des dirigeants et les autres sont partis en exil en Belgique.
Et certains sont d'ailleurs encore en prison, emprisonnés, je crois.
Non.
L'an dernier,
le premier ministre espagnol les a graciés dans une volonté de conciliation. Et cette année, donc, le président Puigdemont a démissionné. Mais ce sont deux autres indépendantistes qui ont pris sa place, c'est-à-dire que l'indépendantiste n'est pas mort, l'histoire
continue. Non, il renaîtra.
Voilà. Alors la différence, ces mouvements de minorité, ces indépendantistes, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup du point de vue historique. J'avais fait un livre sur le Pays Basque. C'était la même chose, hein, les indépendantistes.
On peut les comparer,
On peut les comparer, mais le Pays Basque, c'est une action extrêmement violente, qui au début avait lutté contre le franquisme, donc qui était bien, bien accepté, mais ensuite c'est devenu très violent, il y a eu beaucoup de morts, alors que l'indépendantisme catalan n'est pas violent. Il y a eu quelques manifestations, un peu de casse. C'était à la suite un petit peu des gilets jaunes.
Oui, mais sans
France,
plus.
Mais,
sans
oui,
plus,
sans plus. C'est pas la même chose. Et j'ai travaillé aussi, j'ai publié un roman sur les indépendantistes corses. C'est plus près de chez nous.
Est-ce que tout ça se rejoint? C'est un peu pareil?
Ben, ils essaient de se soutenir. Par exemple, lorsque Puigdemont a proclamé l'indépendance de la Catalogne, Jean-Guy Talamoni, qui est président de l'Assemblée corse, l'a soutenu. Et en fait, il y a eu trois pays seulement qui l'ont soutenu. Les grands pays ont refusé l'indépendance de la Catalogne.
Dans le monde où nous vivons, est-ce qu'il y a une chance de vie ou de survie pour ces indépendantistes? Je veux dire, s'ils arrivaient à leur fin, est-ce qu'ils peuvent arriver à vivre dans un monde où finalement où on s'élargit au maximum, qui devient mondialiste?
Oui, mais les deux provinces, le Pays Basque et la Catalogne, ce sont les provinces de loin les plus riches et industrialisées de l'Espagne. Donc d'une part, peut-être qu'elles pourraient arriver à vivre en tant que pays. Elles ont fait des estimations, elles ont fait des études, mais le gouvernement espagnol ne veut surtout
jamais,
pas les lâcher.
Bien entendu, ils ne les lâcheront jamais.
Voilà, c'est ça.
Par contre, c'est pas le même cas pour la Corse.
Non, c'est pas le même cas pour la Corse. Alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas,
c'était plus compliqué.
Mais c'était décidé pour 2020. Il devait y avoir l'indépendance. J'étais venu chez vous, d'ailleurs, j'avais dit,
oui,
à propos de mon roman Ange Garelli, descendant de Napoléon. En 2020, c'était prévu que la Corse demandait son indépendance.
Et ça ne s'est pas fait?
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu depuis, mais il y a toujours les indépendantistes qui sont dans l'Assemblée corse.
Je crois qu'ils sont majoritaires, d'ailleurs, à l'Assemblée corse, non?
Oui,
ils
oui,
sont majoritaires. Oui. Et il y a beaucoup de Français qui sont pour, d'ailleurs, donner l'indépendance aux Corses. C'est une autre histoire, c'est un débat politique plus profond et compliqué. Mais je ne sais pas si les Corses, avec ne serait-ce que le tourisme, pourront s'en sortir. C'est une autre histoire.
C'est ça le problème. Ça, c'est très différent de
la
Catalogne.
C'est très différent,
oui.
La Catalogne est très riche.
Ah, très riche et très industrialisée, à la pointe de la technologie.
Donc, on peut se replonger dans tout ce monde en lisant votre roman, puisque ça se passe aussi à Barcelone. C'est bien ça, hein,
voilà.
Ça se finit à Barcelone. Okay. Oui. Ce roman, il est en vente à partir de quand?
Il est en vente.
Il est déjà en vente,
il est déjà en vente.
Et vous allez le dédicacer et rencontrer les Couseranais, je crois, samedi.
Voilà, absolument. La librairie à la lettre, et de 10h à midi.
Alors, donc, si vous voulez lire un très beau roman qui va vous passionner, personne ne l'a lu, elles m'ont dit que c'était absolument passionnant, et aller à la rencontre de Josette Elahi, qui vous racontera beaucoup de choses, si elle a le temps, bien sûr. C'est à la librairie à la lettre, ça se passera samedi de 10h à 12h.
RDC, fier de notre région, RDC. Les rendez-vous de l'information, Jean-Louis Péguillan.